les jardinières.
Entre deux chasses aux œufs, on va parler jardinage et laisser les lapins tranquilles. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Ce matin, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Jordi González. Bonjour.
Bonjour.
Jordi González, vous êtes horticulteur et propriétaire avec Rebecca Luchinger du Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Installez-vous confortablement, les jardinières vous accompagnent jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Si les œufs et les lapins en chocolat envahissent les jardins ce week-end, que peuvent faire les jardiniers et jardinières ce week-end de Pâques, après cette semaine plutôt froide et humide, à part bien sûr manger le chocolat?
Bah, c'est une semaine qui est déjà bien tombée, parce qu'en plus il n'y avait plus beaucoup d'eau, du coup c'est parfait. On peut commencer à semer, enfin pas à semer, pardon, à repiquer des salades en extérieur déjà. On peut faire aussi de même avec les choux, chou kale, chou de Bruxelles et j'en passe. Enfin, toutes ces variétés de légumes qui sont pas trop frileuses. Il faut toujours garder à l'esprit qu'on pourrait avoir des gelées jusqu'à la mi-mai à peu près, surtout en montagne. Et du coup, il faut pouvoir les couvrir en cas de gel au sol. Mais on peut faire ça très simplement avec un agril et ça suffit en général.
Merci Jordi, vous êtes notre invité jusqu'à 8h. Dans la suite des jardinières, vous répondrez aux questions de nos auditeurs. Il y a toujours trois possibilités pour nous joindre. La première, c'est par téléphone au 0900 70 20 20, et vous parlerez en direct avec Jordi. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo avec votre question via le formulaire disponible sur notre site internet, ou alors simplement nous écrire un SMS, vous tapez jardin, espace, votre question et votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
Place à la musique, et puis juste après Jordi, vous nous parlerez de variétés de tomates anciennes.
We could dance, all night. 7h, 8h, les jardinières.
Le temps des semis est arrivé, mais avant de parler des basiques de la plantation avec vous Jordi, on avait envie de parler de tomates et plus particulièrement de variétés anciennes. Alors Jordi, pourquoi certaines variétés sont appelées anciennes?
Alors tout d'abord, on peut faire peut-être un petit historique de la tomate. La tomate, c'est un fruit qui vient d'Amérique du Sud, plus particulièrement du Pérou. Bon, ça, on pense, on n'est pas sûr et certain. Il était cultivé là-bas, elle a commencé à être domestiquée en Amérique du Sud, puis c'est les conquistadors qui ont ramené ça en Europe. Ensuite, en arrivant en Europe, la tomate, il faut savoir qu'elle n'était pas très appréciée, c'était acide, c'était pas bon. Les gens, ils pensaient qu'on allait tomber malade en mangeant ça, parce que c'est une cousine de la belladone. Et du coup, c'était plutôt utilisé en ornemental. Il faut attendre des famines en Europe pour qu'on commence à utiliser la tomate en cuisine. Et ensuite, du coup, quand les conquistadors ont ramené ces tomates et après par la suite, quand elles ont été utilisées en cuisine, on a commencé à sélectionner les variétés pour avoir des couleurs, des formes différentes, un goût qui est différent, une taille de tomate qui est différente. Et en fait, on les a hybridées, mais naturellement, parce qu'on n'avait pas encore un génie scientifique comme maintenant, où on pouvait faire des OGM. Et du coup, c'est des jardiniers passionnés, vraiment, qui ont sélectionné certaines caractéristiques des tomates pour ensuite perpétuer ça dans leur plantation et essayer d'avoir une tomate qui va plus bouger après, par la suite. C'est à pas confondre, du coup, avec les hybrides... les hybrides modernes en fait, qui sont sélectionnés en laboratoire, où on va aller un peu chercher des trucs beaucoup plus pointus. Pour la petite anecdote, si jamais la tomate du coup, qui est originaire du Pérou, elle était cultivée sous le nom de pomme d'or à ce moment-là, et c'est de là d'où vient le mot italien pomodoro.
Ah, voilà, on en sait un petit peu plus. Et du coup, ces tomates qu'on appelle variétés anciennes, comment ça se fait qu'elles sont remises au goût du jour maintenant?
Je pense qu'on a envie de revenir un petit peu en arrière avec ça. On se rend compte que leur saveur, elle est bien meilleure. Maintenant, on va chercher, avec les hybrides modernes, on va aller chercher beaucoup la productivité, la taille du fruit et la conservation du fruit derrière. Ça ne les rend pas forcément meilleurs. Et du coup, c'est peut-être pour ça que les gens ils veulent revenir en arrière.
Et puis, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de ces variétés anciennes?
Alors, on aurait la rose de Berne, la noire de Crimée, ça c'est pour les plus connus. Donc la rose de Berne qui est rose, c'est une grosse tomate, c'est une très bonne tomate si c'est pas une F1, parce que certaines fois, on a des roses de Berne qui sont pas super. La noire de Crimée, c'est une grosse tomate noire aussi, elle est très connue ici. Après, on a la Black Prince, par exemple, qui est une tomate Prospecia rara. Donc c'est une association qui s'occupe de conserver ces graines de variétés anciennes, mais ce n'est pas forcément des tomates, hein, c'est d'autres légumes aussi, ou même des animaux. Et on aurait par exemple aussi la Garnette, qui est une variété anglaise, une tomate cerise noire, qui est vraiment très très bonne.
Et puis, qu'est-ce qui rend les variétés des tomates anciennes si spéciales? Ben, vous l'avez dit, hein, le goût, mais par exemple, est-ce qu'elles sont plus résistantes aux maladies?
Alors, ça va être surtout le goût et la reproductibilité de la tomate, parce que souvent, les tomates hybrides modernes, on ne peut pas reprendre les graines d'une tomate et refaire la même tomate par la suite. Soit ça donne des trucs bizarres, ou alors ça ne va peut-être même pas donner de tomate, on n'en sait rien. Mais ça peut quand même donner une plante. Hein, ça... voilà. Et après, ben, des fois, on va les sélectionner pour la résistance à certains virus ou au mildiou, par exemple. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les variétés anciennes. Non. Certaines sont plus résistantes que d'autres, certaines vont pousser différemment que d'autres, et c'est vraiment ça qui va être intéressant quand on va choisir.
Et puis pour se lancer dans la plantation de variétés anciennes, il faut des graines. Où est-ce qu'on peut les trouver?
Alors, des graines, on peut en trouver un peu partout, dans le commerce, sur Internet, enfin voilà, dans des marchés. Maintenant, il faudrait trouver des associations de conservation de graines comme Prospecia rara et passer par ces associations-là. On a aussi ces semences de pays à Genève, par exemple. Passer par des associations qui sont sérieuses, justement, pour aller chercher ces graines. Comme ça, on n'est pas dupé par les magasins. Et aussi... on pourrait récupérer sur des fruits qui sont issus de variétés anciennes et où on est sûr que c'est ça, quoi.
Mais donc si maintenant j'achète une tomate que je la trouve vraiment excellente, je peux essayer de replanter une petite graine de tomate qui était à l'intérieur?
Oui, par contre il faut être sûr qu'il s'agit bien d'une variété ancienne et pas d'une, s'il s'agit d'une rose de Berne, que ce soit pas une rose de Berne F1.
Sinon vous aurez juste une plante, Brian. Est-ce que ces variétés anciennes ont besoin de soins spéciaux? Est-ce qu'elles se plantent comme des tomates de courante?
C'est exactement le même traitement que les autres tomates. Elles auront peut-être une différence avec les variétés hybrides dans la production qu'elles vont donner de tomates ou bien sur leur port. Donc le port, c'est vraiment la forme, la taille de la plante en soi. Mais elles vont pas demander
une vieille terre ou un truc, voilà. de l'eau de source qui vient du fond des grisons. Non, ça va.
Non,
ça
elles sont assez gentilles et résilientes quand même.
7h, 8h, les jardinières.
La saison des semis est lancée et pour réussir cette étape, histoire d'avoir de bons légumes par la suite, on vous propose ce matin les bons conseils de Jordi González, horticulteur à Neuchâtel. Alors Jordi, pour débuter les semis, quels légumes conseillez-vous pour commencer? Genre, on n'a jamais fait de semis, on commence par quoi?
Un débutant, moi je conseille la salade, qui est un très bon point de départ. Il y aurait aussi les choux, enfin chou kale par exemple, les choux rouges ou choux blancs, les choux pommes aussi, c'est très facile et surtout c'est très
bon.
Ouais, c'est bon et c'est bien à voir en fait, ça pousse très vite. Mais vraiment la salade c'est un légume qui est très 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 simple à cultiver.
Mais alors, comment est-ce qu'on peut choisir nos graines?
Alors, bah, comme j'ai dit avant, pour les tomates de variété ancienne, les graines ne se valent pas toutes. Déjà, bah, moi, je prendrais du bio pour commencer, juste, voilà. Et ensuite, c'est quand même peut-être mieux d'aller les acheter dans un magasin qui est spécialisé dans, pas forcément la vente de graines, mais dans les plantes, que de les acheter à la Migros, à la Coop, comme ça, en faisant ses courses.
Jordi, on va passer au semis une fois qu'on a choisi nos graines. Justement, on les met dans quoi nos graines? Dans des petits pots, dans des... On voit souvent des cartons d'œufs ou des... carrément l'œuf. Non, c'est vrai, on voit sur les réseaux sociaux qu'on peut faire nos semis dans les coquilles d'œufs. C'est bien.
Oui, ça se peut, mais après, le plus simple, ça reste d'utiliser un contenant. Ça peut être un ancien Tupperware qui a été percé en dessous, ça peut être un vieux pot où vous aviez une plante dedans, enfin n'importe quoi. Il ne faut juste pas que ce soit trop profond, je dirais 5-6 cm de profondeur à peu près. Et après, il faut utiliser du terreau à semis. C'est du terreau qui est un petit peu plus fin que la terre de jardin ou les terreaux universels qu'on va utiliser. Et ensuite, il faut mettre nos graines sur ce terreau à semis, bien tassé. Et pour la plupart des graines, on va juste recouvrir d'une petite couche de terreau qu'on aura tamisé par-dessus. Et ça suffit. Maintenant, certaines graines qui sont plus fines, on ne va pas les recouvrir de terreau.
Et alors, pour semer, est-ce que vous avez des conseils à nous donner ?
Comme j'ai dit avant, on commence justement par ce récipient qu'on remplit de terreau. On met nos graines dedans. Et ensuite, il va falloir mettre ce semis qu'on vient de faire dans un endroit chaud, lumineux, et il va falloir le garder tout le temps humide jusqu'à la germination. Une fois que les graines auront germé, ou la plupart des graines auront germé, on va sortir dans un endroit plus frais, à l'extérieur carrément, le semis pour pouvoir renforcer les graines en fait. Maintenant, on peut le rentrer les soirs où il fait vraiment très froid, mais ça veut dire un soir de gel.
Et là, vous avez dit arroser, on y va genre à l'arrosoir ou avec un, je sais jamais le nom, un pchit-pchit.
Je sais pas le nom non plus,
un
mais oui,
ouais,
un pulvérisateur, c'est bien, un brumisateur.
Un brumisateur, c'est encore mieux.
Mais ça dépend beaucoup de la taille des graines aussi. Si c'est il y a les graines de salade typiquement qui sont assez grandes, assez longues, assez plates, elles vont généralement pas bouger pendant l'arrosage. Des toutes petites graines, on a l'exemple de la graine d'absinthe qui n'est pas du tout un légume, mais nous, quand on fait ça, on les recouvre pas de terre, c'est super fin, c'est vraiment plus fin que du sable. Et du coup, si on arrose par-dessus à l'arrosoir, il y a tout qui bouge. Et donc, ça donne après quelque chose de pas très homogène. Donc, ça dépend aussi de la taille des graines, mais aller au brumisateur, c'est quand même le mieux.
Les jardinières.
On parle jardinage le samedi dans votre radio et ce matin, nous sommes en compagnie de Jordi Gonzalez, horticulteur et propriétaire avec Rebecca Luchinger du Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Nous avons parlé de variétés anciennes de tomates, on parle de semis et comment vous lancer pour bien réussir vos plantations. Et nous prendrons aussi le temps de répondre à vos questions.
Et vos questions, vous pouvez toujours les poser par téléphone au 0900 70 20 20 et vous parlerez en direct avec Jordi. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo avec votre question, via le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières, ou alors nous écrire un SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
Alors Jordi, on parle semis. Il y a quelques minutes, vous nous avez parlé de comment mettre les graines dans du terreau à semis. C'est une terre légère. L'arrosage plutôt avec un brumisateur. Quelle quantité de graines il faut semer pour être sûr d'avoir des récoltes par la suite? Parce que moi, je vois bien le petit sachet de graines. On verse tout dans un pot. C'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut me regarder bizarrement là.
Non, ça dépend du type de légumes qui est utilisé. Les rendements, ils peuvent beaucoup varier selon la variété, selon le type, quoi. Et du coup, ça, il faut se renseigner sur qu'est-ce qu'on va manger dans l'année, qu'est-ce que le légume en question produit, pour savoir combien il faut en semer. Après, on va toujours semer plus que ce qu'on va réellement récolter. Premièrement, parce que après la germination, on va faire un éclaircissage. Je suis pas sûr de mon mot, mais bon. Et du coup, on va enlever certaines plantes qui seront peut-être plus rachitiques, qui seront moins belles, qui seront moins en forme, qui vont forcément moins bien donner après. Et il faut aussi compter une petite perte pendant l'année. Ça peut être les limaces, ça peut être les chenilles, ça peut être plein de choses. Et donc, il faut toujours prévoir un petit peu plus. Puis maintenant, en plus, ça sert à rien de garder d'année en année dans des paquets de graines, énormément de graines qu'on va jamais utiliser. Puis peut-être que quand on va vouloir les utiliser 5-6 ans plus tard, elles auront perdu leur pouvoir germinatif et elles vont jamais germer.
Et on entend souvent le terme repiquer chez les jardinières. Jordi, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe le repiquage et à quoi il sert?
Alors, déjà, pour clarifier un peu ce terme repiquer, c'est vraiment l'action de sortir la plantule de terre, mais sans la terre qui est autour des racines, et de la replanter soit en pot, soit en plaque alvéolée, soit en pleine terre. Ensuite, on va faire ça, ça va être très bénéfique pour pas mal de plantes, typiquement les salades, c'est assez bénéfique. On va stresser la plante à un moment où elle est toute jeune et du coup ça va la pousser à faire des racines et à faire des pousses qui sont plus belles. On va faire ça entre le moment où elle a sa première vraie feuille, donc elle va sortir deux cotylédons puis une vraie feuille, et le moment où elle a la deuxième vraie feuille, à peu près.
Et du coup, ce repiquage, c'est vraiment... on la met dans un pot plus grand pour qu'elle grandisse plus, ou c'est vraiment juste l'action de la stresser, de dire, voilà, t'étais bien là, maintenant on te met ailleurs pour que tu deviennes plus forte?
Non, mais en fait, on va les semer tout ensemble pour économiser de la place, et du coup, on va les remettre une par une, toutes seules, en fait, en repiquant. Et effectivement, on va leur donner plus de place au niveau des racines, mais on va surtout leur donner plus de place sur leur partie aérienne. Et en plus, on va couper une partie des racines pour que ça se ramifie. Enfin, ça les stresse, donc ça leur fait du bien. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est le cas.
Jordi, quand est-ce qu'on peut mettre nos plantons en extérieur? Parce que là, on peut encore avoir du gel. Il y a les fameuses saintes glaces qui vont encore arriver. Pour l'instant, on les garde encore au chaud?
Alors, moi, je les mettrais de toute façon après la germination en extérieur. Parce qu'à l'intérieur de l'appartement, il n'y a pas assez de lumière et il fait trop chaud. Et du coup, c'est mauvais pour les plantons. Ils ont tendance à s'étioler, donc à pousser en longueur pour aller chercher la lumière et à devenir tout petits, pas très beaux. Enfin, c'est pas super. Donc, il faut les sortir le plus souvent possible. Les soirs où il vient du gel, où il fait trop froid, je dirais en dessous de 2-3 degrés environ, là, il faut les rentrer à l'intérieur ou trouver une autre solution, genre serre chauffée ou je ne sais pas. Mais les mettre un peu plus au chaud.
Est-ce que vous avez un dernier conseil pour les personnes qui vont se lancer dans les semis ce week-end?
Faites vos semis avec plaisir. Faites attention quand vous semez des graines de ne pas les semer trop serrées, de pas justement les déplacer à l'arrosage. Donc, faut faire bien les choses par étapes. Mais sinon, faites-vous plaisir.
Et puis, espacer un peu les plantations. Si par exemple, si on commence, on se dit là, je plante un peu de carottes, on peut replanter dans une semaine pour avoir sur la durée après plus de carottes.
Je dirais que les carottes, c'est pas forcément utile, mais pour les salades, par exemple, ça sert à rien de planter 15 salades le même jour parce qu'on va jamais manger 15 salades en une semaine.
Non, enfin, petit joueur. Merci beaucoup, Jordi. En plus de vos conseils, il faudra quand même un peu de patience hein, pour laisser la nature faire son travail, pour enfin pouvoir profiter des légumes. Le moment venu, on va se retrouver dans quelques minutes pour répondre aux questions des auditeurs. On va peut-être juste rappeler le numéro, Brian, comment nous joindre?
0900 70 20 20.
7h, 8h. Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre rendez-vous jardinage du samedi matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h et il est temps de répondre aux questions de nos auditeurs. Brian, on va peut-être rappeler comment faire pour nous joindre.
Et oui, vous avez toujours trois possibilités pour poser vos questions. La première, c'est par téléphone, 0900 70 20 20. Vous aurez l'occasion de parler en direct avec notre spécialiste. Vous pouvez aussi choisir le SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question. Vous terminez par votre nom et vous nous envoyez ce message au 939. Ou alors, vous pouvez utiliser le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Et là, vous aurez l'occasion de joindre une photo à votre question.
On va parler d'un abricotier, Jordi. C'est Joël de Glovelier qui nous dit « Bonjour, j'ai traité mon abricotier avant l'hiver avec du soufre et du cuivre et le problème n'est pas résolu. Il y a toujours de la sève qui coule. » Elle nous demande, enfin elle vous demande, parce que moi j'ai aucune idée, quoi faire?
Alors, j'imagine que vu qu'on parle de soufre et de cuivre, ça doit être une maladie fongique, donc des champignons. Ce serait un peu plus aisé de répondre à cette question avec une photo, parce que là je vois pas trop de quoi il s'agit, où coule la sève, à quel point elle coule. C'est des paramètres qui sont importants pour pouvoir savoir si la vie de l'arbre elle est en danger ou pas. Et ensuite, je dirais que, bon, par contre, la plupart de ces maladies avec de la sève qui coule, c'est assez grave et il y a peu de chances que l'arbre s'en remette, mais il faut essayer de refaire un traitement avec du soufre et du cuivre là maintenant au printemps et puis voir qu'est-ce qui se passe pendant la saison estivale.
Et puis Joël, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer une photo via le formulaire disponible sur notre site.
Et puis, on a aussi reçu une question de Myriam de Porrentruy. Bonjour, notre haie de tuyas est légèrement abîmée par endroits. Entre parenthèses, elle est séchée et elle est malade. Et nous désirons remplacer progressivement la plantation en comblant les vides. Quelles essences choisir? Et elle nous remercie encore.
On peut choisir des essences de bois, enfin de feuillus par exemple, qui seraient sessiles. Vous en avez parlé il n'y a pas très longtemps, il me semble, aux jardinières. Il y aurait le Fagus sylvatica qui est le hêtre. Et celui-là, il garde un peu ses feuilles, surtout dans des stades jeunes ou bien proches du sol pendant l'hiver. Donc les feuilles sèches vont rester, ça c'est pour couper la vue. Ça peut être pas mal et c'est indigène. Il y a aussi, j'ai déjà vu des haies où ils utilisaient du sapin dedans ou de l'épicéa. Alors encore voir bien la variété qui est utilisée parce que ça pourrait être utile de sélectionner une bonne variété. On peut aussi utiliser de l'érable champêtre. Enfin, il y a quelques autres espèces indigènes qui sont utilisées pour les haies chez nous.
Le choix est donc vaste. On a reçu une photo d'une sauge où on dit « ma sauge est au bout de sa vie ». Mais des jeunes feuilles repoussent au bout du reste qui est tout sec. Que dois-je faire? Tout couper? Alors on a reçu la photo aujourd'hui. Effectivement, la sauge, elle n'a pas l'air en forme.
Oui, effectivement. Mais ça peut être juste dû à l'hiver. Alors les feuilles de sauge, elles vont de toute façon sécher pendant l'hiver. C'est une plante qui n'aime pas trop le froid. On va dire ça comme ça. Et moi, je pense que... Enfin, ce que je ferais, moi, ce serait de tout couper et d'essayer de faire repartir la sauge depuis la base. Parce que là où les feuilles sont sèches, elle ne va jamais vraiment refaire des feuilles.
Merci Jordi. On a encore reçu une question de Lia. Elle a planté un avocat il y a 7 mois et ces dernières semaines, il ne se porte pas très bien. Il a l'air un peu faible, avec beaucoup de moucherons. Et elle se demandait comment faire pour qu'il se porte mieux.
C'est sûrement dû à un problème d'arrosage. Donc il y a un petit peu trop d'eau. Ça attire des petites mouches qui sont des cyarides où les larves vont manger les racines des plantes. Ça arrive assez fréquemment dans un appartement. Et pour ça, alors il y a deux choses à faire. La première, ce serait d'éviter de garder la terre tout le temps humide. Il faut plus espacer les arrosages, la laisser sécher entre deux arrosages, en sachant que ces petits moucherons, ils aiment bien aller dans du terreau qui est très humide, donc ils vont moins aller dans du terreau sec. Ensuite, il y a des pièges qui peuvent être utilisés, des pièges collants, ça c'est pour attraper les adultes. C'est ces pièges jaunes qu'on peut acheter dans toutes les grandes surfaces. Et sinon, il y a aussi une bactérie qu'on peut mettre dans l'eau d'arrosage. C'est une petite pastille que vous trouvez dans les grandes surfaces aussi. Et puis c'est Bacillus thuringiensis, il me semble le nom latin de la bactérie.
7h, 8h, les jardinières.
Dernière minute des jardinières. On a reçu une question qui parle d'un blaireau. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit message à Joël qui nous a envoyé une photo de son abricotier. Malheureusement, on ne peut pas l'ouvrir. Il faudrait nous l'envoyer en format JPEG. Et on se fera un plaisir d'y répondre la semaine prochaine. Le blaireau. Donc, c'est une habitante de la vallée qui nous dit qu'un blaireau a fait de gros dégâts dans son jardin il y a 3 semaines sur toute la pelouse. Elle a mis du répulsif sur conseil du garde-faune. Le blaireau ne revient plus, mais la pelouse est amochée. Est-il possible de réparer la pelouse sans la refaire totalement en l'aplanissant et semant du gazon fleuri ou de la prairie fleurie? Et puis jusqu'à quand on peut agir? Parce que la pelouse est toujours dans cet état. Jordi, que faire?
Alors oui, on peut la réparer sans la changer complètement. Et je pense qu'il faut commencer par remplir les trous que le blaireau a créés avec la terre assez fine. Et puis après, tasser et ressemer un mélange de gazon fleuri, prairie fleurie par-dessus. Vous pouvez faire ça assez rapidement. Je pense que le plus tôt c'est fait, le mieux ce sera. Ça va gentiment germer ces prochaines semaines avec le retour du beau, on l'espère. Et vous aurez pour cet été quelque chose de plus joli.
Merci Jordi, le temps file, il est presque le temps de se quitter pour aller cacher les lapins de Pâques dans le jardin. Jordi, avant de vous laisser filer, rouler les œufs comme on dit, mais ça vous ne l'avez pas expliqué ce matin comment on roulait les œufs, mais ça sera pour une autre fois. On va se lancer dans les semis ce week-end. Est-ce qu'il y a d'autres tâches à faire au jardin?
Ouais, il y a d'autres tâches, bien sûr, il y a toujours des tâches à faire au jardin, mais on peut tailler les plantes qui sont peut-être un peu plus gélives. On parlait de la sauge avant, de Myriam à Porrentruy, et on peut commencer à tailler ces plantes un petit peu plus frileuses déjà maintenant.
Merci Jordi. On rappelle que vous êtes horticulteur et propriétaire avec Rebecca Luchinger du Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Passez un bon week-end de Pâques et puis à bientôt chez les jardinières.
Merci beaucoup. Merci. Bon week-end de Pâques.
Merci Jordi. On se donne rendez-vous samedi prochain chez les jardinières dès 7h pour une nouvelle émission. Nous serons cette fois-ci en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. Et comme d'habitude, hein, vous avez toute la semaine pour nous envoyer vos questions jardinage en remplissant le formulaire disponible sur notre site. Pardon. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et vous nous l'envoyez au 939. Brian, je vous souhaite un bon week-end. Ne mangez pas trop de chocolat.
Je ne mangerai pas trop de chocolat.
Vous êtes un sacré menteur. À très vite chez les jardinières. Bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.